De grosses transformations secouent le monde. Crise sanitaire mondiale, digitalisation de notre société, montée en puissance de l'intelligence artificielle, révision des accords de libre-échange, fluctuations boursières, des transformations qui ont un impact direct sur votre quotidien. Torontois et Torontoises, pour vous permettre de mieux comprendre ces mouvances, la Radio Choc FM 105.1 vous propose un coup de phare quotidien sur l'actualité avec Tirne Soumaré. Écoutez Plein Feu Grand Toronto du lundi au vendredi de 8h à 9h sur Choc FM 105.1.
Bonjour, vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1 au micro de Tirne Soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Tania Sabah qui est au micro avec nous. Bonjour Madame Sabah.
Oui, bonjour,
monsieur. C'est un plaisir de vous avoir sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour rappel, vous êtes la directrice du Pôle Québec et Communauté francophone du Canada. Pouvez-vous nous revenir un peu sur le rôle de votre organisme?
Oui, écoutez, je suis professeure à l'Université de Montréal et donc partenaire dans cette très belle aventure, très beau projet qui est le portail des connaissances sur les femmes en entrepreneuriat. Ce projet est mené par l'Université Ryerson, donc qui est le pôle principal, et moi, je dirige donc le Pôle Québec et pour les communautés francophones du Canada. En quelques mots, écoutez, le portail, c'est une initiative de soutien à la recherche et au développement de programmes pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est un réseau qui a été bâti, qui comporte plus de 150 partenaires, dont 70 chercheurs, et évidemment qui a reçu un financement dans le cadre de la stratégie fédérale sur l'entrepreneuriat féminin. Et si vous voulez, il a trois missions. Je pense que c'est la façon la plus simple de le présenter. D'abord, cartographier l'écosystème autour de l'entrepreneuriat, plus particulièrement de l'entrepreneuriat féminin, contient beaucoup d'initiatives, des incubateurs, des accélérateurs, des organismes de soutien, des organismes de financement, des organismes de formation. Et donc, une des premières missions, c'est de faire cartographie cet écosystème pour bien comprendre tout ce qu'il y a comme ressources existantes aujourd'hui en soutien aux femmes en entrepreneuriat. La deuxième mission, c'est de mettre en contact, c'est un peu de créer le réseau du réseau qu'on appelle. Donc, mettre en contact, évidemment, ces organismes, mettre en contact ces différentes composantes pour, évidemment, arriver à en offrir encore mieux cibler les besoins des femmes en entrepreneuriat. Et la troisième mission, que je vous dirais vraiment centrale, c'est celle-ci de mobiliser les connaissances. Et c'est la raison pour laquelle le portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat regroupe au-delà de 70 chercheurs. Les hubs qu'on appelle, ou les pôles, sont logés dans des universités pour la plupart. Donc, l'idée, c'est de vulgariser la connaissance, de mettre les recherches, les études, par exemple sur les stéréotypes, sur les parcours entrepreneuriaux, sur par exemple les retombées de la COVID-19, les initiatives au service des organismes d'abord et évidemment des femmes en entrepreneuriat puisque c'est notre mission principale.
170 chercheurs pour cartographier l'écosystème de l'entrepreneuriat. Comment avez-vous choisi ces chercheurs et c'est dans quelle base vous les choisissez?
Alors, il y a les chercheurs qui sont directement affectés au projet. Vous savez, comme tout projet, il part avec un noyau de chercheurs. Mais ce que nous faisons, c'est d'aller chercher par la suite dans nos propres réseaux des collaborations. Vous savez, les chercheurs travaillent en général ensemble. Et donc, ce qu'on fait, c'est que autour de nous, évidemment, on fait des appels à des expertises. À chaque fois qu'il y a des forums, qu'il y a des études, qu'il y a des recherches particulières sur certains thèmes.
Pouvez-vous nous faire également l'état des lieux dans l'entrepreneuriat?
Alors, parmi les travaux du portail qui ont été faits récemment, une large étude qui a été menée à travers le Canada pour justement faire un état des lieux, puis comprendre encore mieux la situation, puis établir peut-être un point de départ aussi pour voir comment les choses vont évoluer. Alors, ce qu'on réalise très vite, c'est que il y a à peine 13% des femmes canadiennes qui sont des entrepreneurs. Alors que si on le regarde du côté, par exemple, des travailleuses autonomes, ben, le pourcentage monte à presque 37%. En général, les femmes, et pourtant, les femmes sont plus scolarisées, sauf qu'on les retrouve quand elles sont entrepreneurs dans de certains secteurs, comme commerce du détail, services, éducation. Elles sont moins présentes, par exemple, dans les services des technologies, là où aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup plus de financement. Ce qu'on voit également, c'est que quand on regarde un peu du côté des femmes immigrantes, les pourcentages de femmes qui veulent devenir des entrepreneurs est encore plus élevé. Et pourtant, quand on examine celles qui réussissent finalement à passer à travers, on voit qu'elles sont peu nombreuses. Quand on regarde, par exemple, les femmes autochtones, on sait que 40% des femmes autochtones sont des travailleuses autonomes, donc travaillent pour elles, travaillent à leur compte. Et pourtant, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que c'est par choix, est-ce que c'est par contrainte, et pourquoi est-ce qu'elles restent toujours dans de très petites entreprises? Et donc, quand on regarde un peu, est-ce que leur situation a évolué? Oui, par exemple, si on regarde du côté de l'exportation, elles vont, en 2007, elles étaient 6% à exporter, en 2010, elles sont 11% à exporter. Alors, il y a, c'est pas qu'il n'y a pas de l'avancement, mais c'est trop lent. Et compte tenu de la capacité de l'économie canadienne, ben, les femmes, c'est un potentiel énorme et elles devraient pouvoir, évidemment, créer aussi des emplois, créer de la richesse et indépendamment des secteurs, parce que peu importe les secteurs dans lesquels elles peuvent se lancer, tous les secteurs contribuent à l'économie.
Cette initiative, on va dire ce programme, pour soutenir les organismes qui soutiennent les femmes entrepreneurs, justement, dites-nous quel est l'impact de la COVID dans l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin plutôt.
Oui, alors écoutez, la COVID, évidemment, est arrivée créant vraiment des conditions parfois difficiles, parfois même de misère pour beaucoup, beaucoup de monde. Et compte tenu que les femmes sont déjà dans des secteurs du commerce du détail, de la restauration, du service, de l'hébergement. Donc, déjà, ce sont des secteurs qui ont été frappés plus durement que d'autres secteurs. Donc, déjà, à la base, si on regarde encore une fois l'écosystème, si on regarde les statistiques, clairement, elles sont dans des secteurs qui sont plus vulnérables. On a fait quelques études pour voir un peu comment elles se comportaient, comment est-ce qu'elles pouvaient, qu'est-ce qui faisait en sorte que cela rendait les choses très difficiles. Alors, évidemment, par exemple, l'accès aux programmes gouvernementaux leur était parfois plus difficile parce qu'elles avaient plus de difficultés à identifier les bons programmes, à monter parfois les dossiers pour aller chercher le financement. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle montrait autant de résilience, par exemple, que les hommes pour aller chercher les programmes et pour le faire, pour essayer de passer à travers la crise. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'elles sont dans des entreprises qui sont plus petites, avec des chiffres d'affaires qui généralement sont moins élevés. Donc, encore une fois, le coût a été plus dur et leur capacité, parce que ceux qu'on a vu qui réussissent à passer, c'est ceux qui ont quand même des capacités financières, ou ceux qui ont des chiffres d'affaires qui sont un peu plus élevés. Et donc, de ce point de vue, clairement, la COVID-19 est venue aggraver un peu leur situation. Et si on regarde aussi les femmes entrepreneurs, ce qu'on appelle un peu les motifs d'intersectionnalité, donc, par exemple, des femmes entrepreneurs qui sont racisées, des femmes entrepreneurs qui sont d'origine ethnique diverse, des femmes entrepreneurs qui sont des nouveaux arrivants au Canada, ben, la situation est encore plus difficile. Parce que les obstacles aussi qu'elles rencontrent sont encore plus difficiles, dont l'accès au financement, de trouver les bons programmes, de trouver l'écoute, la compréhension auprès des interlocuteurs pour faire valoir leur projet.
Justement, à quel point les femmes entrepreneurs ont-elles été touchées avec cette COVID?
Mais c'est sûr que les femmes ont été touchées et dans le sens où ce qu'on a pu remarquer, c'est que celles pour passer à travers la crise, nous, on avait regardé un peu dans nos études trois stratégies. Une première stratégie, c'était celle de dire, OK, est-ce que vous avez les compétences, est-ce que vous allez devoir passer au virage numérique? Vous savez, quand vous êtes dans le commerce du détail et que vous n'avez plus un magasin, vous ne pouvez pas ouvrir votre commerce, clairement, c'est le commerce en ligne qui s'est substitué. Or, les besoins en virage numérique est très fort, par exemple, pour les femmes entrepreneurs. Et il est encore plus fort chez les femmes entrepreneurs, même que chez les hommes entrepreneurs. Donc, on a même vu cette différence. Donc, par exemple, le message de passer vers le marketing numérique, vers tous les supports qui peuvent aider, jusqu'à même aller jusqu'à l'intelligence artificielle, peut-être aujourd'hui encore dans une moindre mesure, mais certainement toutes les plateformes technologiques sont très importantes. On a aussi, comme deuxième stratégie, posé la question sur est-ce que vous avez besoin d'adapter vos produits ou vos services? Et là aussi, le besoin est grand, dans le sens où les femmes entrepreneurs ont besoin de soutien pour, par exemple, élargir les réseaux internationaux, adapter leurs produits après COVID pour voir comment elles pouvaient tirer leur épingle du jeu. Et donc, ce sont quand même des besoins importants. Et en troisième lieu, au niveau des compétences. On aura posé la question, quel type de compétences est-ce que vous auriez besoin justement pour passer à travers la crise, pour développer vos entreprises? Et encore une fois, plusieurs ont noté l'importance, par exemple, de participer à des groupes de réflexion autour de l'innovation, autour de la réflexion sur les développements, la recherche et le développement, sur de pouvoir aussi se mettre avec des plus grands groupes, pouvoir développer aussi des compétences en développement des affaires. Donc, clairement, il y a aussi au niveau du développement de la connaissance en affaires, il y a aussi des besoins. Et donc, clairement, à travers les initiatives qu'on va devoir voir, en tout cas, ce que j'espère, il y en a déjà beaucoup qui sont là parce qu'il y a des organismes qui offrent ce type de soutien. Mmh. Donc, il faut juste encore mieux les cibler et surtout réduire des barrières. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui s'en prévalent pas? Mmh. Là, il faut comprendre les raisons et, encore une fois, adapter les systèmes. Parce qu'il ne faut pas juste rester dans des compléments de programme. Mmh. Il faut vraiment comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'on ne se prévaut pas de certains services et donc encore mieux les adapter.
Justement, on va rester dans ce cadre de l'entrepreneuriat, d'aide aux femmes entrepreneurs. Quelle est la meilleure façon de les pousser à pouvoir se dire, écoutez, on va dépasser ce cadre d'avoir peur, d'aller chercher des financements, de changer, parce qu'on est en période de COVID, il faut changer, il faut passer dans le numérique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup qui sont des indécis. Comment peut-on les orienter à ce qu'elles disent que voilà, c'est la porte de sortie? Ou simplement, c'est la façon de faire la plus simple en ce moment?
Oui, c'est une belle question. Puis je peux comprendre toute femme entrepreneur, c'est plus facile à dire, n'est-ce pas, qu'à faire. Mais moi, ce que je dirais, de ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, c'est une bonne période pour le faire. Alors, d'abord, si on regarde juste la période de la COVID, et encore une fois, avec toute la misère, les difficultés que cette période a apportées, il reste que il y a des opportunités, puis les femmes, nous les avons déjà notées. Cette sensibilité à l'environnement, cette sensibilité à faire les choses autrement, cette sensibilité à l'achat local, à l'économie aussi de proximité. Donc, il y a vraiment des leviers qui sont déjà développés par des femmes entrepreneurs et évidemment sur lesquelles on peut certainement capitaliser. Aussi, on est dans une bonne période avec la stratégie gouvernementale autour de l'entrepreneuriat féminin. Les ressources sont importantes qui ont été mises dans le système. Et déjà, juste le fait de s'être mis comme objectif de doubler le nombre de femmes entrepreneurs, il y a certainement une écoute d'institutions financières, d'organismes de soutien. Et évidemment, il y a eu des subventions de plus en plus grandes qui ont été mises au service des organismes et évidemment pour rejoindre les femmes entrepreneurs et les encourager à le faire. Et ensuite, le gouvernement, évidemment, pense aussi à des stratégies numériques. La stratégie numérique est avant COVID et là, elle est accélérée par la COVID. Et donc, je pense qu'on n'a pas le choix que de regarder tout ce qu'il va falloir investir comme adaptation à l'intérieur, même des plus petites entreprises. Et c'est là où les plateformes collaboratives peuvent jouer un rôle énorme parce que on ne peut pas mettre sur les épaules des PME et des plus petites entreprises à développer par elles-mêmes des capacités numériques. C'est comme demander l'impossible. Ce sont des technologies qui sont coûteuses. Sauf que là, cette création de plateformes, cette création de communautés pratiques, ben, vont voir le jour petit à petit. Puis je pense que, en tout cas, le portail, évidemment, se positionne à l'intérieur de ce type de stratégie.
Mais ce portail, ce n'est pas simplement pour les femmes entrepreneurs qui ont envie de changer, de se professionnaliser, d'aller dans le numérique et tout ça. C'est aussi soulever aussi les personnes, les femmes entrepreneurs en général qui ont fait faillite quand même, non?
Ben absolument. Ce qu'on voudrait, c'est les attraper avant qu'elles ne fassent faillite. Parce que avant la COVID-19, le grand espoir, justement, à travers la stratégie de l'entrepreneuriat féminin, c'était de doubler les nombres. Or, déjà, on part un peu perdant, puisque avec la COVID, les entrepreneurs en général fonctionnaient à des capacités moindres. Il y en a qui ont dû complètement suspendre parce que, évidemment, on ferme certains commerces. Et donc, l'idée, c'était le soutien. Aujourd'hui, le message qui est envoyé, évidemment, est un soutien d'abord à celles qu'on peut aider pour éviter le pire et, évidemment, de penser à la croissance. Puis vous avez parfaitement raison de relever. Il n'est certainement pas question seulement d'aller vers certains secteurs. Puis quand on parle même du numérique, qu'on parle de l'innovation, on ne parle pas seulement des secteurs qui sont dans les secteurs techniques ou scientifiques. Aujourd'hui, on peut être dans des secteurs de l'économie sociale et le virage numérique est présent aussi. Puis les innovations, évidemment, se retrouvent dans tous les secteurs. Et donc, l'idée aussi, c'est d'envoyer ce message, c'est qu'on ne peut pas juste appuyer certains secteurs. Les femmes sont beaucoup dans des développements, évidemment, autour d'objectifs sociaux, développent leur communauté, développent de l'emploi dans leur communauté, développent souvent des services de proximité. Et donc, ça fait aussi partie de l'économie. Et ce qu'on aimerait, c'est évidemment amener le soutien à travers les organismes, parce qu'évidemment, le portail ne donne pas de soutien direct aux femmes entrepreneurs. Ce n'est pas l'objectif. L'écosystème est déjà bâti autour de ces organismes. Nous arrivons plutôt comme une plateforme, comme un portail donc de connaissances où l'on essaye de, à travers un peu des données probantes, à travers des études, à travers des cartographies, de mettre en lien l'écosystème pour le rendre encore plus cohérent, puis en arriver à aider les femmes entrepreneurs.
Parler de l'entrepreneuriat féminin, c'est plutôt aussi parler de la professionnalisation des entreprises, et cela amène à parler d'incorporation et tout ça. Est-ce que c'est aussi une façon aussi de pouvoir leur expliquer, les pousser à s'incorporer?
Ben absolument, ça fait partie justement des initiatives qui sont portées par le portail. Donc, il y a eu à un moment donné toute l'information qui a été donnée, par exemple autour des programmes gouvernementaux qui commencent à prévaloir. Là, on est rendu à parler cette fois-ci le 28 octobre, donc à 14h, de démystifier l'incorporation pour les femmes en entrepreneuriat. Parce que ce qu'on réalise, c'est que, comme je disais tout à l'heure, alors qu'il y a que 13% de femmes qui sont des entrepreneurs, ben, elles sont presque 37% à être des travailleuses autonomes. Ce que ça veut dire, elles peuvent avoir juste des entreprises enregistrées, elles ne prennent pas le temps d'incorporer leurs entreprises. Alors, ce qu'on essaye, c'est de voir, nous avons des expertes qui vont s'exprimer sur pourquoi s'incorporer, les avantages, les inconvénients, comment le faire et quels sont les avantages jusqu'où aussi de le faire. Et justement, c'est d'aider encore une fois des femmes d'avoir des accès à certains programmes, à certaines ressources qui souvent sont destinées à des entreprises qui sont déjà incorporées.
Pour rappel, cet événement se passe le 28 octobre, ce mercredi. Ça va être un webinaire où il y aura quand même beaucoup de monde. Qui seront les personnes qui vont faire cette conférence?
Alors, parmi les conférencières qui vont être là pour animer le webinaire sur l'incorporation des femmes entrepreneurs. Alors d'abord, les premières, ce sont mesdames Yann Bruy et Stéphanie Brouillard, qui sont les deux personnes qui vont expliquer les enjeux légaux et les enjeux fiscaux autour de l'incorporation. Cette première présentation sera suivie d'une table ronde qui sera à laquelle prendront part des représentants d'organismes de soutien à l'entrepreneuriat et également des entrepreneurs donc qui sont passés par là et qui vont expliquer leurs expériences.
C'est un plaisir en tout cas, Madame Sava, de vous avoir eu sur les ondes de chaque FM 105.1. Avez-vous un dernier mot?
Non, je vous remercie infiniment pour l'occasion d'en parler.
Pour rappel, nous étions avec Mme Tania Saba, directrice du Pôle Québec et Communauté francophone du Canada. C'est un plaisir en tout cas, Mme Saba, de vous avoir eu sur les ondes de chaque FM 105.1.
Merci beaucoup, M. Soumaré, pour l'entrevue.
C'est un plaisir. À présent, la suite des programmes sur la 105. Oui, merci. C'est un plaisir. Présent la suite des programmes sur la 105.1.
Cette série originale de Choc FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 105.1 sur Facebook.